Dan Mag, T comme Titan, Dan comme Daniel, le magazine de Titan et Dan. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé,
Dominique,
au micro, et de l'ami fidèle,
Laurent,
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Nous recevons aujourd'hui deux comédiens metteurs en scène, Régène Bajard et Thierry Venesson. Il m'a semblé intéressant pour cette occasion d'interroger les mots, d'aller au-delà des simples apparences en se contentant de dire que le comédien serait quelqu'un qui joue la comédie. Si l'on cherche l'étymologie du mot comédie, qui est à l'origine un mot grec, on s'aperçoit que la comédie c'est un chant à l'occasion d'une célébration, ce qui éclaire singulièrement la signification du mot comédien. On pourrait dire que le comédien c'est d'abord quelqu'un qui prête sa voix à un personnage. Quant au mot « théâtre » qui apparaît pour la première fois dans la langue française en 1213, il remonte lui aussi au grec ancien et désigne le lieu où l'on regarde les gradins. C'est le même mot en italien, espagnol, anglais, allemand, grec moderne, comme s'il y avait quelque chose d'universel dans cette forme d'art. Le théâtre, c'est donc à l'origine un lieu où l'on va voir, assister à une représentation. C'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaît le metteur en scène, alors que jusque-là c'était les comédiens eux-mêmes avec l'auteur qui assurait la représentation. On considère que c'est André Antoine, qui était également comédien, qui a inventé la mise en scène. Régène Bajard, vous vous êtes formé de 1990 à 1992 à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Vous avez participé à la création de la compagnie Anonyme. Vous avez travaillé avec différents compositeurs. Vous avez tourné pour la télévision, puis rejoint la plateforme Locus Solus. Thierry Venesson, vous vous êtes formé au Conservatoire Régional de Dijon de 1988 à 1990. Vous avez participé à des ateliers de formation au théâtre de Dijon-Bourgogne de 1990 à 1993. Vous avez effectué des stages sur le métier de clown, le personnage du bouffon, la pratique du jeu masqué. Régène Bajard, bonjour.
Bonjour.
Thierry Venesson, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois qu'on va démarrer l'émission par un cadeau que vous avez accepté de nous faire, à savoir une lecture. Qu'est-ce que vous allez nous lire ?
Eh bien, on va vous lire une scène de Roméo et Juliette.
Très bien.
C'est presque au bout du monde. Ma barque vagabonde errant au gré de l'onde.
Mais doucement, quelle lumière brille à cette fenêtre. C'est là Lorient et Juliette en est le soleil. Voici madame, oh, elle est mon amour. Si seulement elle pouvait la prendre. Elle parle, mais que dit-elle? Peu importe, ses yeux sont éloquents. Je veux leur répondre. Non, je suis trop hardi. Ce n'est pas à moi qu'elle parle. Comme elle appuie sa joue sur sa main, que ne suis-je le gant de cette main pour pouvoir toucher cette joue.
Hélas,
elle parle. Oh, parle encore, ange lumineux, car tu es aussi resplendissante au-dessus de moi dans la nuit que l'aile d'un messager du paradis.
Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour, et je cesserai d'être une Capulet.
Je veux te prendre au mot. Nomme-moi seulement amour, et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo.
Qui es-tu qui, dans l'ombre de la nuit, trébuche ainsi sur mes pensées secrètes? Oh, Roméo? Comment es-tu venu, dis? Et pourquoi les murs de ce verger sont hauts, durs à franchir, et ce lieu, ce serait ta mort, étant qui tu es si quelqu'un de mes proches te découvrait?
Sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs, car des clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Ce qui lui est possible, l'amour l'ose et le fait, et c'est pourquoi ce n'est pas dans ta famille que j'ai peur.
Ils te tueront s'ils te voient.
Hélas, plus de périls sont dans tes yeux que dans vingt de leurs glaives. Souris-moi. Et je suis à l'épreuve de leur colère.
Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils te trouvent.
J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux.
Qui t'a guidé jusqu'ici?
L'amour qui m'a d'abord fait m'enquérir. Il me donna conseil, je lui prêtai mes yeux.
Bonne nuit. Ce bourgeon de l'amour, s'il mûrit dans la brise d'été, sera peut-être une splendide fleur à notre prochaine rencontre. Bonne nuit. Bonne nuit, le même doux repos qui règne en moi descend dans ton cœur.
Oh, vas-tu me laisser si insatisfait ?
Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit ?
L'échange de nos vœux de fidèle amour.
Deux mots, cher Roméo, et bonne nuit cette fois. Si ton élan d'amour est conforme à l'honneur et ton dessein le mariage, écris-moi demain par le biais de quelqu'un que je t'enverrai où et quand tu entends qu'on célèbre le rite. Et alors, je mettrai à tes pieds mon destin et te suivrai, mon seigneur et maître, d'un bout à l'autre du monde. Mais si tu projetais des choses déloyales, oh, je te prie de cesser tes instances et de me laisser seule avec mon chagrin. Demain, je t'envoie quelqu'un.
Par le salut de mon âme.
Mille fois. Bonne nuit.
Merci.
Merci. On était dedans, là. On était partis.
Alors, vous travaillez depuis quelques années avec la plateforme Locus Solus. Pourquoi plateforme et pourquoi Locus Solus, s'il y a une réponse à cette question ?
C'est toujours difficile de parler du nom des compagnies. Il vient parfois un peu par hasard, à vrai dire. On cherchait un nom. On voulait pas s'appeler compagnie. Et l'idée de la plateforme pour nous, c'était le lieu d'une réunion, d'une possible connexion avec d'autres équipes, avec d'autres comédiens. Et on a travaillé sur un auteur qui s'appelle Raymond Roussel, hein, et qui a écrit un roman qui s'appelle Locus Solus. Et on a travaillé sur Impression d'Afrique de Raymond Roussel. Mais on connaissait aussi Locus Solus. Et le lieu solitaire, ça nous paraissait un petit peu convenir à ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire un lieu à la fois où on peut être plusieurs, où on peut être nombreux, d'où l'idée de la plateforme, et aussi avec des individualités, avec des entités fortes. Voilà, c'est un petit peu le sens qu'on peut donner.
Puis il y a un manifeste. Et dans ce manifeste, j'ai vu que vous évoquiez Marcel Duchamp, donc Raymond Roussel, Marcel Duchamp. Oui. C'est important pour vous ?
Oui, en tout cas, c'est important. Ça a marqué effectivement notre histoire dans l'histoire de la plateforme. Oui.
Alors, Réjeanne, comment est-ce qu'on devient comédienne ? Comment est-ce qu'on décide un beau jour de monter sur les planches, d'être devant le public, une autre que soi ?
Alors moi, c'est assez bateau, en fait, mon histoire.
Vous êtes tombée dedans dès vos 4 ans ?
Non, à 13 ans, je savais que je voulais faire ça. Voilà, donc à partir de là, j'ai tout mis en place pour pouvoir le faire. J'ai suivi des cours au conservatoire. En même temps, je suivais les ateliers du soir à la Comédie de Saint-Étienne. Et puis voilà, j'ai passé mon bac et après, j'ai passé l'école de la comédie, et voilà, je savais que je voulais faire ça de toute façon, et voilà.
Et ce déclic, c'est d'avoir vu, entendu des pièces, dire.
Alors, il y a une grande tradition à Saint-Étienne, c'est vrai qu'il y a eu une grande tradition du théâtre, et c'est vrai que j'ai eu mes parents, qui n'étaient pas du tout là-dedans, mais m'ont emmené très jeune. J'avais un abonnement à la comédie, et j'y allais avec mon père. Et ça, c'était... effectivement, ça a contribué à, j'imagine.
dans votre parcours, on voit que vous avez travaillé avec des musiciens. Hein. J'ai noté Vincent Carinola, Michele Tadini, l'ensemble baroque, alternatif, les Boréades. Ça vous a apporté quoi, ces collaborations avec des artistes dont on a l'impression qu'ils sont tous soucieux de faire se rencontrer les différentes formes d'art ?
Alors d'abord, c'est un peu des hasards aussi, ces rencontres, des hasards et qui ont finalement n'en sont pas vraiment. Parce que depuis qu'on travaille ensemble avec Thierry Bordereau aussi, qui est le directeur artistique de la plateforme Locus Solus, il y a toujours eu un grand intérêt pour la musique Et je dirais même de la musique, au-delà de la musique, mais de la musique aussi dans les mots et dans la façon de dire aussi le texte. Et du coup, oui, c'est finalement, que ce soit de la musique, de la danse aussi, ou des arts plastiques, etc., il y a toujours une connexion très large dans notre travail à travers toutes ces formes d'art-là. Et la musique, qu'est-ce que ça amène ? Alors, c'est avec des musiciens, on ne travaille pas du tout de la même façon, on n'a pas le même langage. Ça, c'est assez frappant. Et en même temps, ça ouvre d'autres portes, d'autres univers. Voilà, c'est ce que je dirais. Travailler avec Vincent Carinola ou Michele, ce sont deux compositeurs de musique contemporaine. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on rencontre vraiment un autre monde, pour le coup. Un autre langage, vraiment, aussi.
Et votre expérience de la télévision, le tournage de court-métrage également, ça rentre dans le même cadre ou c'est des hasards d'une carrière ?
Bah, en fait, c'était il y a très longtemps, au tout début. Au tout début, c'était des hasards de rencontre aussi. Et ça, encore une fois, ce qui est extraordinaire dans ces métiers-là, c'est que finalement, on aborde plein de choses, plein de façons différentes. Et c'est vrai que les courts-métrages, c'est encore différent, c'est un autre rapport au jeu, et qui est passionnant aussi. C'est des expériences, c'est des aventures, en fait. À chaque fois, c'est des nouvelles aventures. C'est ça qui est chouette.
Il faut rester ouvert à son environnement et voir là où on peut être appelé.
Alors, moi, j'ai jamais, en fait, été appelée dans le sens où, finalement, j'ai toujours travaillé en complicité avec des gens et par fidélité. Et donc, j'ai souvent travaillé longtemps avec les mêmes personnes. Et évidemment, je travaille avec d'autres personnes aussi. Mais c'est vrai que c'est un travail de fidélité aussi, et donc du coup de rencontres aussi par le biais de ces fidélités aussi là, et les choses s'ouvrent, c'est des chemins comme ça qui se font.
Thierry Venesson, ce métier, pourquoi vous l'avez choisi ? Comment vous l'avez choisi ?
C'est toujours étrange de reparler de ces moments-là, parce que les chemins qui sont pris sont un peu aussi hasardeux, mais moi j'ai des souvenirs assez anciens de théâtre, à l'école, de pièces vues, et je dois dire que j'étais pas baigné du tout dans un milieu théâtral, très culturel non plus, mais j'ai des souvenirs un peu précis de choses que j'ai vues et qui m'ont vraiment donné envie de faire cette activité-là. Je me souviens que la première pièce que j'ai vue, qui était une production amateur, je pense, je ne m'en souviens pas, j'étais petit, c'était Du vent dans les branches de Sassafra, pièce de Obadiah, qui est assez jouée par des amateurs, et j'ai été complètement conquis par cette interprétation. Je trouvais ça à la fois drôle, vivant, c'était dans une salle des fêtes. Je crois que mes parents n'étaient pas très intéressés par la pièce, qu'ils devaient discuter, faire autre chose. Mais moi, j'étais au premier rang et j'étais éberlué de voir ça. C'est un souvenir un peu simple comme ça, mais c'est une sorte de sensation. Je me souviens aussi d'un comédien qui était venu lorsque j'étais au collège, en sixième ou en cinquième, qui disait des fables de La Fontaine. Et je trouve que c'est un souvenir assez frappant pour moi de voir cet homme-là, tout d'un coup, être investi par un texte comme ça et prendre une autre vie devant nous de façon très simple. Et voilà, ça, c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué. Et puis après, moi, j'ai eu envie de jouer, du coup. Moi, je suis passé beaucoup par le théâtre amateur aussi, et puis le conservatoire et le centre dramatique, les formations, mais j'ai eu une longue pratique de troupe amateur, où j'ai fait aussi d'autres. J'ai touché un peu à tout, avec un peu la technique, avec un petit peu d'atelier déjà. Et c'était une formation du coup assez ouverte. Et Voilà, c'est cette succession de petites choses qui ont fait que j'ai continué et je me suis, disons, installé dans ce métier.
Et... Pardon. Comme pour Thierry et pour Réjeanne, parce que vous parliez des parents, quand on dit « je vais être comédien », comment ont-ils réagi? Parce que c'est souvent la peur pour son enfant qu'il n'en sorte pas. C'est un parcours difficile pour trouver son chemin.
Mais, moi, j'ai mis assez longtemps à devenir comédien. J'ai été étudiant pendant un temps, tout en étant formé à la fois. Mais du coup, il y a un moment où j'ai pris la décision et... Oui, je pense que mes parents n'étaient pas très, très chauds. Ils auraient préféré me voir suivre une formation plus classique. Et je pense qu'avec les années, simplement, et avec l'activité, ce qu'ils ont vu de ce que j'avais fait, voilà, ils ont petit à petit accepté et apprécié, je pense, le fait que je puisse faire une activité artistique.
Et pour vous, Réjeanne, ça s'est fait automatiquement?
Ben, en fait, j'avais un grand frère qui a ouvert la voie avant moi.
Ah, voilà.
Qui, du coup, était sculpteur. Et donc, c'était plus facile, j'imagine, pour moi d'arriver après. Et en fait, ils m'ont toujours soutenue, je crois. Je crois que j'étais tellement décidée à faire ça qu'ils m'ont suivie là-dedans. Ils m'ont soutenue. Pour que je fasse ça. J'ai eu cette chance-là parce que finalement, ils n'étaient pas du tout là-dedans non plus. Enfin, voilà, donc voilà.
Vous travaillez beaucoup ensemble. Complicité, complémentarité.
On travaille depuis plus de 20 ans ensemble, en fait.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Oui.
Ouais. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est formidable. On travaille ensemble, on a été ensemble sur une première compagnie. On a travaillé pendant 10 ans avec cette compagnie-là. Et puis après, voilà, comme toute compagnie, à un moment donné, ça se sépare. Et puis j'ai rejoint la plateforme. Ils ont créé la plateforme avec Thierry. Et je les ai rejoints par la suite. Mais en fait, c'est extraordinaire parce que... Moi, ce qui me plaît finalement dans ce métier-là, c'est les rencontres, certes, mais c'est aussi pouvoir, avec les gens avec lesquels on travaille, creuser aussi. C'est un travail de recherche et toujours aller dans cette recherche-là, plus loin, et chercher d'autres choses. Moi, c'est bien aussi de travailler avec d'autres gens, mais cette recherche-là, elle est vraiment intéressante, ouais.
Couleur FM 97.1, avec nos invités Réjeanne Bajar et Thierry Vénesson, nous venons d'entendre Play the Blues, Back to Back de Duke Ellington and Johnny Hodges dans Wabash Blues. Vous avez fait ce choix, Réjeanne, Thierry?
Oui, c'est moi.
Et pourquoi ce choix, si...
Tout simplement parce que j'aime Duke Ellington.
Voilà.
Simplement. Je suis tombée dessus. Je me suis dit, oui, j'ai envie d'entendre ce morceau-là. Vraiment, je trouve qu'il est...
Il porte,
vraiment.
Alors,
très vivant.
Thierry et Réjeanne, pardon. Est-ce que vous avez des modèles, des comédiens dont vous pensez qu'ils représentent exactement l'idée que vous faites du métier d'acteur, du...
Moi, j'ai pas vraiment de modèle. J'ai jamais aimé avoir des modèles, en fait. Mais il y a des personnes, des acteurs que j'aime beaucoup. Acteur de théâtre, il y a une femme auquel je pense tout de suite, c'est Anne Alvaro, j'aime beaucoup. Denis Lavant, j'aime beaucoup cet acteur aussi. Au cinéma aussi, également. Voilà, je pense à eux tout de suite, dans les grands connus, on va dire, et reconnus.
Oui, moi, je me projette pas forcément dans un modèle ou dans une figure comme ça que j'aurais envie de je sais pas d'imiter ou de parvenir. Mais c'est vrai, il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Il y a un acteur qui est peut-être pas très connu, mais qui s'appelle Patrick Pinault. Je trouve qu'il est assez un acteur souvent du théâtre public, a fait énormément de choses, hein, qu'on voit beaucoup sur la scène. Mais ouais, c'est une sorte de nature à la fois généreuse et engagée comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Par exemple, c'est vrai que Denis Lavant aussi. Dans un jeu à la fois très physique et très précis dans les mots, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant. Voilà, il y a des gens que moi que je peux avoir envie de suivre, d'écouter. Par exemple, Michel Piccoli, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est une sorte de monstre sacré. C'est comme une sorte d'infusion intérieure, c'est-à-dire ou une inspiration, mais je dirais pas que, je dirais pas que ça soit un modèle.
Vous êtes comédien, metteur en scène. Est-ce que ces deux activités pour vous sont complémentaires, un petit peu comme les deux facettes d'un même désir, hein, celui de donner vie à des textes, de les représenter?
Ouais, pour moi c'est une activité, disons, globale. Hein. On parce que c'est aussi une démarche qu'on a et qu'on a eue quand on a créé la plateforme Locus Solus et qu'on a un peu entre nous, c'est de dire être responsable de ce qu'on fait un peu collectivement. J'abuse un peu en disant ça parce qu'il y a toujours un metteur en scène. C'est deux positions très différentes, mais c'est d'abord l'envie de raconter des histoires et d'essayer d'avoir les moyens ou de profiter de tous les moyens possibles pour raconter au mieux ces histoires. Notre art, c'est le théâtre, et du coup, on peut guider quelqu'un pour le diriger, pour exprimer cette histoire, et puis on peut le faire soi-même. Pour moi, c'est vraiment deux versants distincts, mais que j'ai plaisir à exercer.
Puis l'idée aussi de, à chaque fois depuis qu'on travaille ensemble, on se retrouve sur des territoires. Et c'est de vraiment s'emparer du territoire. Bon, là, c'était particulier. En plus, quand on est arrivé à Bourgoin, le théâtre brûlait. Donc, il n'y avait plus de lieu, il n'y avait plus d'endroit. Et on s'est toujours dit ça, en fait. On est artiste avant tout. Et en tant qu'artiste, quel projet on a envie de mener? Et comment on les mène. Donc, du coup, on s'empare des choses. Même Thierry Bordereau disait à un moment donné, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas musicien, mais par exemple, on pourrait faire un concert quand même. C'est-à-dire que, oui, et pourquoi pas. Monter des projets sur le territoire, inventer des choses et se dire, bah tiens, toi, t'as envie de jouer dedans, d'accord. Bah, alors, moi, j'ai envie de raconter ça. Donc, comme disait Thierry, aussi raconter des histoires. Enfin, tout ça fait partie d'un tout, finalement, et c'est d'être pas simplement comédien et se retrouver sur un plateau à chaque fois. Non, c'est d'être vraiment acteur dans le fait de mener un projet jusqu'au bout, de A à Z.
Vous, Réjeanne et Thierry, donc ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez encore des moments où vous vous étonnez, où vous vous découvrez, où vous faites des recherches, où vous, en 20 ans, j'imagine qu'il y a eu tout un chemin aussi dans votre travail, dans vos recherches. Et est-ce que par moment encore, là, vous êtes étonné.
Bah oui, moi je dirais oui. En fait, moi,
rien n'est figé.
J'aime bien être finalement des fois comme les enfants, c'est-à-dire que on arrive devant quelque chose et puis on s'étonne de tout. Et c'est vrai que oui, il y a encore des moments où on surprend. Oui. on a fait un stage dernièrement. Ensemble, encore une fois, autour du bouffon. Et moi, j'ai vu des choses de Thierry que je n'avais jamais vues encore. Voilà. Voilà.
Ouais. Mais c'est la vertu de l'étonnement, elle est quand même primordiale, je trouve, dans le métier qu'on fait. Et en 20 ans, on change, on évolue et on essaye toujours de... Le jeu, c'est quand même d'être au présent, de jouer avec ce qu'on est au moment où on l'est. Je pense que demain... on pourra être différent. Du coup, voilà, il y a toujours à découvrir, on a toujours à inventer aussi. Si soi-même on essaye d'inventer, de s'inventer régulièrement, je pense qu'on peut rester sur ce mode-là. C'est un mode sensible au fond, et du coup on peut... Et soi-même, moi je trouve que... Moi, j'ai du plaisir quand moi-même, j'arrive à m'étonner, c'est-à-dire de faire quelque chose ou de... je parle dans le métier, hein, en jeu, ou dans un moment de création, de dire « je suis vraiment surpris de ce qui m'arrive là, de ce que je fais ». Et c'est un grand plaisir. Du coup, je pense que voilà, c'est pareil. Moi, on peut continuer cette collaboration, je pense, pendant très longtemps, parce que c'est un mode d'échange vivant. Et du coup, qui évolue, forcément.
Est-ce qu'on peut imaginer, je pense à ceux qui vous écoutent, est-ce qu'on peut imaginer que cet étonnement, il peut provenir d'une mise en difficulté de vous-même, de l'approche de quelque chose que jusqu'à là, vous n'aviez pas approché? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe?
C'est à la fois ça, et c'est plus que ça aussi. Moi, je dirais que aller là où on sait déjà, pour moi, c'est quand même moins intéressant. S'il y a une chose qui m'intéresse, et dans ce métier, et dans la vie en général, c'est quand même d'aller sur des chemins que j'ai jamais parcourus. Et on peut en avoir, et il y en a énormément, quoi. On peut revenir à zéro toujours. Et là, on reprend Roméo et Juliette, on retravaille sur cette forme qu'on a faite il y a quelques années déjà. Eh ben, le jeu, c'est quand même d'être comme au premier jour où on le fait, et d'être dans ce plaisir-là devant les gens. Du coup, oui, cet étonnement, moi, je trouve qu'il est constitutif de notre métier. Moi, je l'imagine toujours comme ça. Et j'aime les projets, j'aime les sujets qui me font tout d'un coup, qui me posent questions, ou qui sont peut-être un peu difficiles, ou devant lesquels je me dis comment je peux faire ça, ou qu'est-ce que c'est que ça. Et ça me plaît, c'est des sortes de petits défis, mais qui peuvent nous amener un peu plus loin.
Oui. Puis je crois que c'est avant d'aborder un travail, c'est surtout un regard de départ. C'est-à-dire arriver comme comme tu disais, Thierry, d'arriver et voilà, et être suffisamment ouvert et sur l'instant pour prendre tout ce qui arrive. Et voilà, dans ces moments-là, bah, y a toujours des surprises. Et des choses se renouvellent de cette façon-là. Puis prendre des risques, c'est aussi... c'est sûr que c'est tentant d'aller là où on va, où on n'est pas allé encore. C'est vrai que se connaissant, des fois, on se dit qu'on pourrait s'amener toujours dans les mêmes endroits. Et puis, ben, aussi, quand on va prendre l'air ailleurs, travailler avec d'autres gens, ça ramène un petit peu d'air frais, comme ça. Et du coup, quand on revient, il y a aussi cette chose-là où on a pris l'air. Et donc, du coup...
un autre regard.
C'est un autre regard. Mmh. Et du coup, on se retrouve neuf à nouveau aussi. C'est comme si... voilà, c'est retrouver sa famille et en même temps se retrouver changé aussi. Enfin, voilà, comme, c'est vrai que quand on vieillit, et ben, les choses aussi évoluent et qu'on change.
Est-ce que dans vos choix de texte, l'actualité joue un grand rôle? Il me semble que vous avez fait quelque chose autour de Anna Politkovskaya. C'est important, ça, pour...
C'est pas forcément une volonté d'être sur l'actualité, mais on parle du monde forcément, et ce texte sur Anna Politkovskaya, oui, on l'a joué avec, bien sûr, avec l'actualité qui était un petit peu passée déjà quand on l'a créé, mais de la Tchétchénie. Oui, c'était quelque chose qui nous a tenu à cœur. Après, on n'est pas toujours en prise avec une actualité précise, une actualité récente. Mais
et puis des fois, c'est pas forcément direct dans le propos, dans le sujet, dans le thème. Moi, je pense qu'aussi on peut parler du monde sans forcément être et de l'actualité sans forcément parler d'actualité. Là, il se trouvait que sur Anna Politkovskaya, effectivement, voilà, ça s'est présenté comme ça, et puis qu'on avait envie de défendre ce texte-là, qui est né au départ d'une lecture, d'une commande aussi, que le Théâtre des Ateliers à Lyon nous avait faite. Et du coup, on a eu envie de poursuivre ce travail-là. Et puis, c'est vrai que ça nous a beaucoup touché aussi de parler de la Tchétchénie et d'Anna Politkovskaya et du travail formidable qu'elle a pu faire. Mais c'est vrai que voilà, souvent on n'est pas forcément dans des textes, en tout cas pas forcément dans l'actualité vraiment. On essaye plus de partir des textes et parler d'actualité, comment ça nous touche. Je veux dire des textes pas forcément engagés, mais d'autres textes, même des classiques, et de voir à l'intérieur, comme dans Roméo et Juliette, comment cette histoire, elle peut nous toucher aujourd'hui, comment les correspondances. Et donc, du coup, on parle d'actualité. Forcément, une jeune de 14 ans qui est mariée à 14 ans, voilà, ça peut nous parler aujourd'hui.
C'est peut-être pour ça que l'art a de l'importance, non ?
Bah oui.
Vous êtes des témoins à votre manière.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, oui, et puis on essaie de faire passer aussi une sorte de plaisir, par exemple, du jeu, de plaisir de l'histoire. Et je crois que ça, c'est aussi une forme de militantisme, si on peut dire ça, parce que on est souvent confronté à jouer devant des jeunes publics, devant des lycéens, des collégiens, et beaucoup ont perdu ce rapport, enfin, peu long, au spectacle vivant, à la présence de quelqu'un devant eux qui joue et qui dit. Et je trouve que là, faire ça avec du plaisir aussi et transmettre ça, je trouve que voilà, ça peut être une petite importance.
Est-ce qu'il y a des textes, des grands textes, je ne sais pas si le mot grand a une signification. Est-ce qu'il y a des textes que vous aimeriez approcher, que vous n'avez pas approché encore, ou des auteurs?
Oui, moi j'aimerais bien jouer Tchekhov, par exemple. Ibsen. Voilà. Là, c'est vrai que c'est des auteurs que j'aimerais bien jouer, que je n'ai jamais joué.
Donc vous allez le faire?
Peut-être.
On parlait tout à l'heure de Feydeau, on parlait tout à l'heure en répétition. C'est vrai que je pense que c'est un grand plaisir de jouer Feydeau, par exemple. Voilà.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Couleur FM 97.1, avec nos invités Réjeanne Bajard et Thierry Vénesson, nous venons d'entendre Karen Dalton, I'll So Hard. Également un choix que vous avez fait.
Que j'ai fait, oui.
Réjeanne.
Oui, parce que... ce qui est, tout à l'heure, on parlait de musique et Karen Dalton, c'est une voix. C'est une voix. Et pour moi, ça me touche. Il y a certaines voix qui me touchent beaucoup. Et certains grains de voix, et notamment le grain de la voix de Karen Dalton. Mais comme d'autres chanteurs aussi qui ont ces voix un peu éraillées, comme des chanteurs comme Janis Joplin, chanteuse comme Tom Waits, dont. Je pense à eux tout de suite. Et c'est des voix qui m'emmènent vraiment ailleurs. Je parlais d'Anne Alvaro aussi, qui n'a pas du tout la voix éraillée. Elle qui a vraiment... qui a une voix aussi formidable. Enfin, moi, qui me touche beaucoup. Et la voix, c'est de la musique. Et la voix, c'est une émotion. Voilà. Et voilà, c'est ça. Voilà le pourquoi de Karen Dalton.
Ça prend dans les tripes certaines voix comme on est.
Exactement. Il y a quelque chose qui il y a des voix qu'on, moi je sais que j'écoute beaucoup la radio par exemple, et il y a des voix que je ne supporte pas. Il y a des voix qui sont insupportables et je change de station à ce moment-là, alors que d'autres je pourrais les écouter, même des fois je n'écoute même pas ce qu'ils disent. Au bout d'un moment je me laisse vraiment happer par le son de la voix. Ouais. Et la couleur et le grain.
Alors justement, la voix, on disait tout à l'heure que le comédien, c'était quelqu'un qui prêtait sa voix. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de la voix et puis du corps qui porte des idées, des textes, des dialogues, et la voix.
Et la voix, elle change aussi, puisqu'on parlait de ce chemin d'années.
Alors la voix, bah oui, il y a la voix...
la voix de l'acteur, la voix du chemin, c'est ça?
C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que l'acteur, c'est d'abord un travail, physique. Je présente ça souvent, avec des groupes amateurs avec qui je travaille ou des gens en atelier comme ça, qui sont parfois surpris de se retrouver à devoir activer complètement leur corps dans son entier, et aussi donc la voix fait partie de ce processus là on est présent par à part à la radio comme ici, mais on est présent par tout son corps, et c'est d'abord un sport en fait, jouer c'est une activité physique, et du coup la voix, la parole, c'est du souffle. Et c'est de l'air. Valerno Varina a écrit de très beaux textes là-dessus, sur l'acteur respirant, le poumonné. voilà. C'est assez beau et c'est très bien décrit. On est une sorte de machine physique, corporelle, et la voix exprime un petit peu tout ce parcours, si on peut faire une métaphore comme ça, de l'air dans le corps, et on peut entendre presque la forme du visage. En fait, c'est assez passionnant quand on se penche un petit peu sur ce phénomène-là de la parole. C'est assez vertigineux, et on travaille beaucoup avec ces principes-là. Mais pas comme un... On travaille, nous, on peut s'exercer, on peut faire des exercices, mais disons que c'est une chose globale, je trouve. Et que l'appui sur le sol, la respiration, l'état dans lequel on se met, disons, les sensations qu'on a font que... on va changer de voix, mais sans essayer forcément de faire des effets. C'est plutôt le résultat, c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg, en fait. Voilà. Et du coup, on peut être attaché à ça. On a fait des spectacles où on avait un rapport assez fin, comme ça, aux textures de la voix, et le spectacle Caisse, là, qui est sur des textes de Christophe Tarkos, poète, avec de la musique aussi, que Thierry a mis en scène, a une grande importance à la parole, au dire, et du coup aussi à la voix de l'acteur, qui était un travail très physique aussi. Voilà.
Alors,
Notre outil, pardon. Je dirais. C'est notre outil comme...
Oui, voilà. Ouais.
C'est un outil.
C'est un outil.
Qui s'assemble, qui s'accorde. Tout à fait.
Alors, la voix, le corps, ça, on en arrive au public. Votre relation avec le public, j'imagine qu'évidemment, c'est essentiel.
Ah, c'est essentiel. Et puis, en plus, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on a toujours réfléchi à la relation au public. Toujours travailler en fonction de où le public se trouve, à qui je m'adresse. Voilà. Et ça, ça a toujours été très important, et puis ça nous suit toujours. Vraiment, savoir comment je m'adresse, où est le public, est-ce que je le regarde, est-ce que je ne le regarde pas, est-ce qu'il y a le quatrième mur, est-ce qu'il n'y a pas le quatrième mur. Souvent, nous, on est en rapport, en relation directe avec le public. Et du coup, d'être vraiment en connexion avec eux et d'être dans cet aller-retour aussi de la scène, la salle, etc., etc. Ça, c'est une chose très importante dans le travail, dans la plateforme, dans l'Oculsolus.
Est-ce qu'il y a plusieurs formes de public selon le type de lieu où on donne la représentation?
Selon le type de soir aussi, tout simplement. Ah, tous oui. Les soirs, il y a des publics différents. Ça dépend de comment ça se fait aussi. Il suffit que dans la salle, par exemple,
c'est tout bête, mais que sur le début du spectacle, il y a quelqu'un qui est très réceptif et qui va se mettre un peu à sourire pour que, ou à rire, et d'un coup, la salle part avec lui. Et à l'inverse, si la salle est très froide, que personne n'ose, mais pas parce qu'ils n'aiment pas forcément, ou, mais parce que personne n'ose, alors d'un coup, il va y avoir une espèce de froid qui va s'installer. Enfin, c'est vraiment... Alors là, c'est difficile à dire comment ça se passe. Et puis, si nous, on est moins bien ce jour-là, etc., donc la relation se fait moins bien entre scène-salle. Et donc, c'est vraiment sur l'instant. C'est pareil, on parlait tout à l'heure du travail de l'instant. C'est vraiment... cette chose-là, entre le public et l'acteur et les acteurs, que tout se passe. Quoi.
Le public peut transporter, comme il peut effectivement, comme vous l'avez dit, glacer, et c'est dur de passer outre ce côté où on sent un gel.
Des fois, c'est dur, oui.
C'est dur. Parce
des fois, on a envie de partir, même. Non, ça arrive. Des fois, c'est violent. Hein.
Oui.
C'est très violent, ce qu'on ressent. Des fois, c'est pas du tout fondé aussi. C'est très subjectif, finalement, comme... C'est une sensation un peu sur l'instant.
Ce sont les ondes qui passent.
Mais il y a quand même un plaisir aussi de jouer avec... Je trouve que de tenter cette chose un peu utopique de dire, vous parliez des fondements du théâtre tout à l'heure, c'est un petit peu la personne qui se lève et qui prend la parole, c'est un petit peu le rôle qu'on a en étant sur scène, et de pas oublier ça, de venir, on vient du public et on fait communauté avec le public et on commence à parler, à prendre la parole. Ben, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et c'est le plaisir, il peut venir de là aussi.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à l'adagio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche vermeille d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Fait des mois durant dédaigner l'horizon, et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine. Déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine. Les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines. Car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan. Par des sommets hargneux des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées.
Couleur FM 97.1, avec nos invités Réjeanne Bajard et Thierry Vénesson, nous venons d'entendre Dominique A de l'album L'Horizon dans le début de Music Hall. Votre choix à tous deux. Ah, à Thierry.
Oui, c'est moi qui l'ai choisi. J'aime beaucoup Dominica et je trouve que cette chanson particulièrement et tout l'album, ce sont des véritables petites scènes, des histoires avec cette interprétation, cette voix qui est assez particulière, que, voilà, qui me plaît beaucoup.
Voix et mots.
Oui.
Comme vous aimez.
Alors, on va parler maintenant de la saison qui s'achève. Hein, ces lectures scénarisées, mises en espace, que vous avez effectuées dans plusieurs points de la ville, des lieux ouverts ou des lieux, des institutions.
Eh bien...
Comment ça a démarré? Pourquoi? Oui. Avec qui? Dans quel cadre?
Alors, on a pris la... On s'est inséré dans une opération qui s'appelle Délivrez-moi. Mmh. Hein. Les livres frigo qu'on trouve encore, je pense, dans la ville, où on peut trouver des livres dans les frigos. Une opération qui était à l'origine menée par Emmaüs, qui a amené ces frigos qui étaient au rebut, qui a amené ces livres à disposition des gens. Et on s'est inséré dans l'opération avec le choix de 5 œuvres qu'on a mise en espace et en lecture et qu'on a représenté dans le plus d'endroits différents possibles avec les partenaires de l'opération et d'autres maintenant, puisque ces lectures, elles continuent de vivre et elles vont continuer de vivre. C'est bien notre intention. L'idée, c'est quand même de faire voyager ces lectures et le plaisir aussi de trouver une voie pour une œuvre que, par exemple, des jeunes d'un collège de quatrième ne liraient pas forcément seuls ou qu'ils ont lu, mais dans le cadre d'un cours et qu'ils peuvent voir mis en scène et mis en jeu de façon différente. Voilà, c'est assez riche et on a beaucoup de plaisir à faire ces lectures.
L'idée, c'est pour Locus Solus aussi, c'est de partager des histoires et des grandes histoires et de transmettre ces histoires-là. Donc chaque acteur a choisi le livre qu'il avait envie de partager. Et après, il s'est débrouillé pour faire des coupes pour que ça dure dans un temps réduit. Mais... voilà, c'était vraiment de ça, et de dégeler les mots, dégeler la parole aussi, de transmettre cette parole-là, la partager.
Symboliquement, chaque lecture est organisée autour d'un frigo. Mmh. C'est la scénographie. On a travaillé avec un scénographe qui s'appelle Philippe Sommerhalter, et qui a mis en jeu le frigo. Et symboliquement, on sort en quelque sorte le livre du frigo et pour dégeler ces mots et les rendre vivants. Voilà. C'est une opération pour nous qui participe de cette idée qu'on essaye de faire voyager les histoires et de jouer avec en quelque sorte le patrimoine un petit peu, puisque c'est des œuvres là, entre Le Horla, Zazie dans le métro,
Le Vieil Homme et la Mer,
Tchekhov,
Jack London
aussi. C'est un moyen de dire ces œuvres qui sont pas toujours connues ou qui sont, mais c'est des grands auteurs, mais qui sont pas toujours lus non plus. Et de le faire dans l'idée que on puisse s'adresser à un public le plus large possible.
Alors, est-ce que précisément vous avez eu l'impression donc de porter ces textes dans des lieux différents dans le cadre d'une opération particulière qui est une espèce d'invitation au voyage de lecture? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rencontré des publics que sinon vous n'auriez pas rencontrés?
C'est-à-dire qu'on travaille souvent comme ça, donc
vous avez l'habitude.
On a l'habitude de rencontrer plein de publics très différents. Voilà, donc là non, spécialement avec cette forme là non. Enfin oui, voilà, ce que je veux dire c'est que on a déjà fait des formes de ce type là avec d'autres textes, avec des textes
de théâtre, comme là, Roméo et Juliette qu'on reprend. Voilà, donc c'est pas nouveau pour nous. Voilà.
Et le fait que toute un territoire, toute une ville s'implique dans cette opération, il y a quand même de très nombreux partenaires et vous invite, vous artistes, à vous impliquer aussi. C'est quelque chose qui est important pour vous.
Ben, ça a un vrai sens. Oui. Du coup, ça a vraiment le sens de ce qu'on avait envie de faire sur le territoire et sur les effectivement différents partenaires qui. Du coup, le théâtre a vraiment un sens.
Et vos projets futurs, où peut-on vous voir, ou ce que vous montez, avez-vous des dates précises?
Alors, on joue la Roméo et Juliette un peu dans le Nord-Isère. La représentation publique est à Courtenay à 20h30 jeudi qui vient.
L'idée, c'est de raconter. On ne joue pas tout Roméo et Juliette. On est quatre acteurs. Et on raconte l'histoire de Roméo et Juliette en une heure à peu près, avec un escabeau et une barbe.
Voilà. Il y a une lecture d'un frigo qui se passe le samedi prochain à 11h. À 11h du matin. Je pense qu'il y en a une deuxième, mais je n'ai pas la confirmation. En tout cas, à 11h, c'est sûr, à la Grenette, dans le cadre de la Biennale. Donc, c'est l'occasion aussi de voir un livre frigo. Et on peut annoncer aussi ça. Il y a une présentation d'atelier qu'on parle au théâtre sur un groupe d'adultes et un groupe d'enfants qui joue mercredi prochain. Pas ce mercredi-là, mais mercredi 3 juin à 20h à la salle polyvalente. Voilà, c'est aussi une occasion de découvrir le type de travail qu'on peut faire avec un groupe de gens, d'amateurs.
Réjeanne, merci.
Merci.
Thierry, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous.
Oui. Et à vous suivre dès qu'on le peut. Merci Dominique, merci Laurent, et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.